sortie de boîte.
Avec création de formation pour votre entreprise, cefna.ch.
Entre une interview et un avion pour l'étranger, il a accepté de me rencontrer la semaine passée. Ponctuel, mon invité m'attendait sagement devant un bar branché de Lausanne. Après avoir tranquillement bu un café, je découvre un personnage au parcours atypique. Souhaitant devenir dessinateur, mais n'ayant pas le talent suffisant, il l'admet, mon interlocuteur se lance au début de sa carrière dans la promotion de la musique électronique. Il produit des disques, book des soirées avant de devenir gérant de plusieurs restaurants. Puis, un soir, une idée l'envahit. Pourquoi ne pas créer un magazine sur Internet? Le concept paraît fou à l'heure où le tout numérique n'est pas encore d'actualité. Mais peu importe, il a envie de tourner la page et d'explorer de nouveaux horizons. Mon invité était peut-être un rêveur, mais sa détermination et son réseau lui ont permis de se faire une place dans un univers qui, en 2009, n'en était encore qu'à ses prémices. À travers son blog, un brin bling-bling, il partage régulièrement ses différentes passions, voitures, horlogerie et mode. Alors, avant qu'il ne s'envole à nouveau pour le sud de l'Angleterre, il est avec nous dans Sortie de boîte. Georges Guerrero, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Alizé Lichty.
Georges Guerrero, vous avez créé votre blog JSBG en 2009. À cette époque, on l'a dit, vous étiez un pionnier. Pourquoi avoir eu envie de créer une telle plateforme ?
Simplement parce que, d'une part, mon occupation professionnelle de l'époque, qui était la restauration, me prenait énormément d'énergie et j'avais besoin d'une bulle d'oxygène. Et d'autre part, parce que j'ai toujours été curieux de beaucoup de choses et j'ai toujours aimé en parler et les partager. Et d'où cette idée de créer ce webzine.
Est-ce que vous avez imaginé que ça allait prendre autant d'ampleur presque 10 ans plus tard ?
Oh, vraiment pas. C'est-à-dire que à l'époque, pour moi, j'envisageais comme un hobby. D'ailleurs, JSBG, qui est le nom de mon premier blog, ce sont mes initiales. Je n'ai pas cherché plus loin. J'ai simplement ouvert une page sur une plateforme gratuite, donc WordPress. Et puis j'ai commencé comme ça. Je n'avais jamais pensé que je pourrais plus tard en faire mon métier.
Au début, c'était vraiment une activité annexe. C'est ça que vous dites ?
Tout à fait. C'était même moins qu'une activité annexe. C'était vraiment un hobby où j'écrivais sur des thèmes qui moi m'intéressaient simplement pour me vider la tête une fois rentré. De mon restaurant.
À quel moment vous vous êtes dit, en fait, ce que j'écris, ça plaît, ça intéresse des dizaines, des centaines de personnes ?
Il y a eu deux choses en parallèle. La première, c'est que j'ai des petits problèmes de santé qui petit à petit m'empêchait de faire mon travail correctement dans la restauration. Donc il fallait que j'envisage une reconversion professionnelle. Et puis l'autre, c'est que justement, parce que j'étais parmi les tout premiers à faire ça en Suisse, il y a eu un intérêt sur mon travail, sur ce blog. J'ai commencé à être invité par des marques, j'ai commencé à être invité par des médias pour expliquer ce que je faisais. Et j'ai commencé surtout à avoir un lectorat qui me suivait. Et j'ai vu là une opportunité de reconversion.
Comment est-ce que votre activité de blogueur a évolué au fil des années ?
Alors, à l'époque, quand j'ai commencé un blog, c'était vraiment quelque chose d'un peu amateur. Il n'y avait pas tellement d'argent, même pas du tout d'argent dans ce milieu-là. C'était quelque chose d'un peu. Il y avait un côté amateuriste là derrière. Donc, il fallait vraiment croire dans un avènement d'un journalisme entre guillemets digital pour persévérer là-dedans. Mais je prenais beaucoup de plaisir à faire ça, donc j'y ai cru.
Vous n'avez pas du tout le physique de Kim Kardashian, ni celui de Brad Pitt. Comment est-ce que vous expliquez que des gens vous suivent, s'intéressent à vous, s'identifient à vous ?
Mais écoutez, je pense que s'identifier, c'est un mot un peu fort. Moi, j'essaie vraiment moi, je ne suis pas un modèle de mode où je ne me définis pas comme un fashion blogger ou quelque chose de ce type. Moi, j'estime que ce que je fais, c'est plutôt du journalisme, en tout cas dans ce que je produis en termes d'écrit et de visuel. Ensuite, il y a dans les réseaux sociaux, des gens me suivent. Je pense parce qu'ils sont intéressés à mes activités ou à partager avec moi les moments que je peux vivre qui sont assez extraordinaires de par les invitations que j'ai.
Vous parlez de personnes qui vous suivent sur votre blog. Combien de personnes visitent ce blog chaque mois ?
Alors, c'est très variable, mais c'est quelque chose entre 30 et 80 000 par mois.
Ça varie en termes de quoi ? Plus vous produisez d'articles, plus vous serez lu ?
ça varie en termes de quantité d'articles, et puis ça varie aussi en termes, et ça c'est vraiment quelque chose qui est quelque part imprévisible, c'est que certains articles prennent un côté viral sur les réseaux sociaux, et ça c'est une science qui est aujourd'hui encore très inexacte, donc on ne peut pas le prévoir à l'avance.
On va évoquer ces réseaux sociaux tout à l'heure dans l'émission. Parlons maintenant en termes vraiment économiques. Quel est votre business model ou le business model de votre blog?
Alors le business model de mon blog en particulier, je pense qu'on peut dire qu'il y a autant de business model que de blogs différents par rapport à cette activité. Moi, par rapport à mon blog, il y a comme un magazine papier, donc il y a des publicités qui sont insérées sur le site. Il y a des partenariats, ce qu'on pourrait faire le parallèle avec le public reportage dans ce qui est le papier. Et puis il y a aussi des partenariats personnels où des marques utilisent mes compétences ou mon image pour communiquer.
Aujourd'hui, vous vivez de cette activité. Est-ce que ça vous permet de générer un revenu à 100%?
Ça me permet de générer un revenu à 100%, à ceci près que, disons, que le blog en soi est un vecteur d'image, une espèce de vitrine qui ensuite m'amène aussi des mandats qui sont annexes, qui ne sont pas directement liés au blog, mais le tout mis l'un dans l'autre, oui.
On l'a dit, vous avez ouvert votre blog en 2009. C'est à partir de quel moment que vous vous êtes dit « je peux lâcher ce que j'avais, les autres mandats que j'avais et me consacrer à mon blog à 100% »
Ben disons qu'en 2012, ça s'est passé à l'inverse, c'est-à-dire c'est plutôt mes problèmes de santé de l'époque qui m'ont poussé à prendre cette décision. Donc en 2012, cette décision a été prise. Et puis en décembre 2012, j'ai définitivement arrêté la restauration. Et tout de suite derrière, en janvier 2013, je me suis mis à mon compte, on va dire, avec ce blog. Et puis là, j'ai des magazines papier qui avaient remarqué mon travail et qui m'ont demandé de devenir pigiste pour eux. Donc du coup, non plus en tant que blogueur, mais en tant que journaliste.
Vous dégagez quand même une image assez luxe, assez glamour, beaucoup de montres, des voitures relativement chères. Est-ce qu'un blogueur gagne bien sa vie?
Alors qu'il y a certains blogueurs qui gagnent extraordinairement bien sa vie. Encore aujourd'hui, je voyais dans les journaux que la plus jeune milliardaire de l'histoire allait être une des sœurs de Kim Kardashian, uniquement grâce à sa visibilité sur les réseaux sociaux. Donc oui, on peut extraordinairement bien gagner sa vie. Ensuite, c'est proportionnel à sa visibilité. Ça veut dire que plus vous êtes visible, plus vous gagnerez bien votre vie. Moi, comme je vous ai dit, ne travaillant pas sur mon image, mais travaillant plutôt sur le contenu, c'est quelque chose qui reste évidemment dans des chiffres qui sont beaucoup moins extrêmes.
Est-ce que dans le monde ou en Suisse, il y a aussi d'autres blogueurs qui, comme vous, travaillent à 100% de leur blog?
Alors en Suisse, il y en a plusieurs, surtout en Suisse alémanique. En Suisse romande, il y en a 2-3 à ma connaissance.
Lorsque l'on voit votre blog, vos différents comptes sur les réseaux sociaux, on voit des montres, on l'a dit, de la mode, du luxe. Mais quelle est votre activité pour tenter de mieux vous connaître? Je suis venue à votre rencontre la semaine passée dans la capitale cantonale vaudoise et je vous ai demandé ce que fait un blogueur.
Sortie de boîte.
Un blogueur, il fait un peu un travail de journalisme quelque part, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à différentes nouveautés, aux différents chercher des thèmes sur lesquels il peut écrire et puis partager avec ses lecteurs.
Vous évoquez le journalisme, mais vous n'avez pas fait d'études de journalisme.
Alors tout à fait, j'ai pas du tout fait d'études de journalisme. Ceci dit, pour moi, le journalisme, c'est digérer, voir avec ses propres yeux, et digérer cette information pour la transmettre à autrui, peut-être en y mettant parfois un regard personnel ou en l'ancrant d'une manière différente par rapport à celle qui peut être perçue par tout un chacun de manière informée.
Ce que vous dites, Georges Guerrero, c'est qu'en fait, finalement, les blogueurs deviendraient des journalistes?
Alors, je ne veux pas le formuler comme ça, je vous laisse ces propos-là. Pour moi, un blog, c'est quelque chose d'extrêmement fourre-tout comme mot. Ça veut dire qu'on peut avoir un petit site internet dans lequel on parle de sa passion pour les timbres d'époque victorienne. On peut aussi être rédacteur en chef, comme Anne Sinclair l'a été, de Huffington Post, qui est une immense rédaction où beaucoup de journalistes travaillent. Tout ça s'appelle blog. Maintenant, je pense aujourd'hui, le mot média digital est plus adapté.
Une de vos journées type, c'est quoi? Vous écrivez des articles, vous allez rencontrer des marques, vous cherchez à faire des partenariats. Comment ça se passe concrètement?
Alors mes journées types sont par définition pas du tout types, parce que ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'un jour, je vais travailler vraiment à la maison, à la rédaction ou à l'enquête sur différents, me renseigner sur différents thèmes. Un autre jour, je vais être en voyage de presse. Le lendemain, je peux être en train de donner une conférence ici ou là. Et puis encore un autre jour, je serai sur un shooting photo ou vidéo ou en train d'essayer un nouvel hôtel ou une nouvelle voiture, je ne sais pas où, sur la planète. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. Ça, c'est vraiment quelque chose de très plaisant.
Lorsque vous allez dans des événements, dans des voyages, vous êtes forcément à côté d'autres blogueurs, d'autres journalistes. Est-ce qu'il y a une concurrence qui existe dans ce domaine-là ?
C'est une concurrence que je constate dans beaucoup de pays autour de nous, en France par exemple, pour ne pas le citer. En Suisse, on a la chance d'être assez solidaires et puis de s'entraider les uns les autres. Si je m'en tiens au domaine purement du digital par rapport aux autres blogueurs, influenceurs, instagrammeurs en Suisse, déjà, je sors un petit peu du lot parce que j'ai le double de l'âge de la plupart des autres. Donc j'ai un petit peu un rôle de grand-père du blogging en Suisse qui est un rôle assez plaisant au final. Et je me sens pas tellement en concurrence avec les autres. Au contraire, plus on est amené à crédibiliser ce métier et à amener du lectorat ou de la visibilité au type de travail qu'on fournit, eh bien plus ça va se répercuter sur la visibilité de tout un chacun.
Sortie de boîte.
On l'a entendu dans cette interview, il y a une tendance qui penche vers les influenceurs assez jeunes, vous le dites vous-même, Georges Guerrero, vous êtes un peu le grand-papa du blogging en Suisse. Est-ce que ces jeunes sont une sorte de concurrence pour vous ?
Alors, concurrence, c'est un mot un peu fort. Après, évidemment, c'est le même gâteau dont les tranches sont plus ou moins grandes. Maintenant, par rapport à influenceur, qui est un mot qui est vraiment à la mode, il y a une perception de ce mot qui est peut-être un peu ironique, parce qu'on a tendance à lui donner la définition d'instagrammeur, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu sur Instagram. Et puis, ça a généré tout un business qui est arrivé très rapidement. Les marques ont beaucoup investi dans l'image sur Instagram, en prenant des jeunes gens, ou des moins jeunes gens, qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs millions de suiveurs, de followers sur Instagram. Donc forcément, ça a créé des envies, ça a créé des vocations, et même des vocations un peu feintes, parce qu'évidemment, il est extrêmement facile de se procurer des followers sur Instagram. Et puis, ça a créé un appel d'air, et puis il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés par là, des gens qui parfois n'ont même pas de médias à proprement parler à eux, qui n'ont pas de blog ou pas de magazine, mais qui produisent simplement de l'image sur Instagram et qui sont rémunérés pour ce faire, parce qu'ils ont une large audience avérée ou pas.
Ces gens, est-ce qu'ils vous ont pris des mandats ? Vous avez senti une baisse de la part de certaines marques qui vous ont un peu moins approché, justement au profit de ces nouveaux influenceurs ?
Alors, pas complètement, parce que comme vous venez de le souligner, on n'est pas dans la même tranche d'âge. Et moi, ce que je produis, c'est plutôt de l'image et de l'écrit qui a vocation à être lu ou à être vu par des gens qui ont 30 ans et plus, et qui sont dans une tranche d'âge qui est plus mûre aussi en termes économiques et qui n'achètent pas forcément les mêmes choses de la même manière. Et de ce fait, j'ai une audience qui m'est propre. Donc, je ne suis pas tellement touché par ce phénomène.
On l'a compris, d'un côté les blogueurs comme vous, de l'autre les influenceurs qui sont en plein essor. Dans votre créneau à vous, vous avez de la concurrence en Suisse ?
Dans mon créneau à moi, il y a quelques collègues qui sont venus se joindre à moi et produire aussi des magazines online. Et là où ça devient intéressant, c'était pas du tout le cas à l'époque en 2009, mais aujourd'hui, les magazines traditionnels qui travaillaient sur le papier, eux-mêmes viennent aussi sur le digital. Et donc, je peux aussi les mettre dans ce panier de la concurrence.
On parle à présent un petit peu plus en détail d'Instagram. Vous avez environ 11 000 personnes qui vous suivent sur Instagram. Est-ce que vous avez acheté une partie de votre audience ?
Non. Alors, j'aurais eu tort de le faire, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit que ceux qui l'ont acheté, ça devient de plus en plus visible. Il y a des algorithmes, il y a des applications qui permettent de le détecter. Et puis surtout, de manière morale, c'est quelque chose que je ne me voyais pas faire, parce qu'acheter des followers et puis ensuite aller demander des tarifs aux marques pour s'exposer sur son Instagram, puis en prétendant qu'on a tant d'audience, alors qu'en réalité, on n'en a pas tant, on en a acheté une partie, ça équivaut pour moi à une forme d'escroquerie. Donc je n'avais pas envie de jouer à ce jeu-là.
Pour vous, c'est donc un problème ? Vous aimeriez dénoncer ces personnes qui, entre guillemets, trichent ?
Non, parce qu'aujourd'hui, alors peut-être que ce n'était pas le cas il y a quelques mois ou il y a une année, mais aujourd'hui les marques en sont complètement conscientes, et puis il y a un rééquilibrage qui se fait progressivement. Il y a aussi le fait que les marques ou les différents acteurs qui peuvent être amenés à vouloir communiquer par des influenceurs, à travers des influenceurs, pardon, eh bien, ils se rendent compte que ils ont beaucoup plus d'interactions avec des micros, ce qu'on appelle des micro-influenceurs, ça veut dire des gens qui ont une communauté peut-être plus ancrée ou de manière géographique ou de manière des centres d'intérêt spécifiques, etc. L'interaction avec leur communauté est beaucoup plus forte qu'un très grand influenceur qui aura des millions de followers. Donc il y a une année, il y a deux ans, c'était très prestigieux de communiquer à travers des gens qui étaient très vus, très, très, très en vue. Aujourd'hui, on en revient plutôt à quelque chose de beaucoup plus communautaire et de plus direct.
Actuellement, un compte fait assez parler de lui, il s'appelle Rend les Followers. Il dénonce justement ces influenceurs qui trichent. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Guerrero ?
Eh bien, il y a à la fin de l'année passée, fin 2017, début 2018, il y a Zehn Fortzehn, qui est l'émission de télé qui a la plus forte audience en Suisse, qui est donc une émission de télévision de la Suisse alémanique d'information. Et pendant six mois, ils se sont livrés à une enquête vraiment massive où ils ont traqué les influenceurs suisses avec l'aide de différents ingénieurs pour détecter combien de faux followers ils avaient. Pour certains, ce montant allait jusqu'à 80%. Et puis, il a été étonnant de constater qu'après deux ou trois semaines où on en a beaucoup parlé, l'histoire est tombée à l'eau. Puis les marques ont commencé à recommencer à travailler avec les mêmes personnes. C'est un peu un travail de fond qu'il va falloir être fait. Si on se reporte il y a 20 ans en arrière, il y avait aussi des journaux, il y avait aussi des magazines qui trichaient sur leur tirage de manière à vendre leur publicité plus cher. Ça participe du même phénomène.
Une sorte de prise de conscience, hein. On marque une courte pause musicale et on se retrouve juste derrière pour la fin de cette émission économique consacrée au monde des blogs et des influenceurs.
Try to make
My Life is Going On, le générique de la série Casa de Papel de Cecilia Krull. L'une des parties de votre travail, Georges Guerrero, ce sont des voyages à l'étranger, on l'a évoqué. Vous étiez à l'étranger il y a quelques jours, vous repartez en Angleterre demain, puis viendra l'Allemagne. Vous voyagez souvent ?
Je voyage souvent. Alors, depuis cette année, j'ai pris la décision de voyager un tout petit peu moins. Mais les trois dernières années, ça dépassait souvent les 200 jours par année.
Concrètement, ces voyages dits business, ce sont des marques qui vous paient pour faire leur promotion. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème d'éthique ?
Il y a de ça, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas forcément pour aller faire la promotion. Ça peut être aussi pour aller découvrir un endroit tel qu'un hôtel, etc. Pour aller essayer une automobile ou assister à un lancement d'une montre ou à un défilé de mode. Ça ne me gêne pas, étant donné que c'est mon travail. Maintenant, il faut faire le distinguo entre ce qui est pour le blog et ce qui est pour les journaux, etc. C'est-à-dire que quand j'écris dans un magazine ou dans un journal, il est clair que j'ai une déontologie journalistique et que je suis extrêmement objectif. Maintenant, par rapport à mon blog, et puis ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Ce blog, je l'ai fait vraiment pour partager avec les autres ce dont je suis curieux. C'est-à-dire que par définition, si quelque chose ne me plaît pas, ça n'y a pas sa place. Donc effectivement, ça facilite un peu la vie parce que je ne parle que des choses qui me plaisent. Donc après, que j'ai la chance d'être rémunéré pour le faire ou pas, ça c'est une autre histoire.
Mais est-ce qu'on arrive à rester objectif lorsqu'on est invité et qu'une marque, par exemple, nous chouchoute toute la journée ?
Alors, c'est le cas de tous les journalistes depuis l'histoire du journalisme. Quand vous êtes invité pour un voyage de presse, en règle générale, vous n'êtes pas traité de la pire des manières. Donc, c'est simplement le prolongement à l'ère du digital de ce qui se passe depuis longtemps.
Georges Guerrero, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre blog ? On a vu que ces plateformes, au même titre que les réseaux sociaux, sont mouvantes. Elles arrivent, repartent aussi rapidement. Dans 2 ans, le blog, votre blog, il ressemblera à quoi ?
Écoutez, probablement, j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'écrits. Et puis, très certainement, de plus en plus d'images, notamment vidéos. C'est vers ça que va la tendance. Et puis, j'aimerais aussi me lancer là-dedans. Donc, joindre l'image au texte.
Ça veut dire que vous allez en tout cas faire perdurer ce blog ?
Alors ce blog, c'est peut-être un nom qui est devenu caduque. Pour aujourd'hui, je le définis plutôt comme un webzine, donc un magazine sur le web. Et puis dans quelques temps, ça restera toujours un média, mais un peu polymorphe. On verra vers quoi ça va évoluer.
Et puis sur les réseaux sociaux, vous allez garder la même attitude que vous avez jusqu'à présent ?
Écoutez, oui. Il y a deux types de réseaux sociaux. Il y a ceux qui sont vraiment la promotion de mon blog. Il y en a d'autres qui sont simplement mes réseaux sociaux privés à moi. Alors ceux du blog évolueront avec le blog. Et puis les miens, ils me correspondent, ça me va bien.
Et comment vous allez faire pour vous démarquer face à de plus en plus d'influenceurs qui gravitent autour de vous ?
Disons que le plus en plus, il est périodique parce que pas tous arrivent à passer le cap d'en vivre professionnellement. Donc après ça demande énormément de travail et d'énergie, c'est quelque chose de très sérieux. Donc à partir d'un certain moment, on se fatigue ou on devient professionnel. Donc il y a un énorme tournus parmi les nouveaux arrivants.
L'émission économique s'achève ici. Merci Georges Guerrero d'être passé nous parler de votre blog et très bonne soirée, bon voyage à l'étranger.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci également à Yannick d'avoir réalisé la technique de cette émission. Sortie de boîte prend des vacances et revient à la rentrée le jeudi 23 août. Très bel été à tous.
Sortie de boîte.